Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir donc dans le débat du Club des Idées, comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Vous savez que chaque année, ce sont 10 tonnes de nourriture qui finissent en France à la poubelle, dans de nombreuses familles, alors que de nombreuses familles ont parfois du mal à se nourrir. Alors comment changer la donne? Faut-il revoir les dates de péremption, par exemple sur nos yaourts ou sur nos produits alimentaires? On verra que c'est important. Des solutions existent, on va en parler ce soir. C'est un enjeu de société très fort. N'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler, on entendra évidemment vos témoignages comme à chaque fois dans nos débats interactifs. On en parle ce soir aussi avec nos invités. Sarah Chouraki, bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'application Too Good To Go. On expliquera pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. C'est assez révolutionnaire et ça marche très très fort dans plusieurs pays européens, dont la France évidemment. On en parle également avec Éric Birloès. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation. Vous connaissez bien le sujet. Et on en parle également avec Aline Gubry. Bonsoir. Vous êtes consultante en développement durable, autrice de Le Guide de l'alimentation durable, s'engager pour la planète sans se prendre la tête. Voilà une belle promesse aux éditions Thierry Soucard, c'est sorti l'an dernier. Alors on va commencer par un chiffre qui est absolument effarant. Chaque année, chaque Français jetterait à la poubelle 20 kilos de nourriture, dont 7 kilos encore emballés. Alors non seulement c'est révoltant parce que ça ne profite pas à des gens qui en ont besoin, mais ça coûte cher en plus. Ça représente 159 euros de pertes par an pour un ménage, c'est-à-dire un repas par semaine. Éric Birloès, est-ce que ce chiffre est en augmentation ou au contraire, il a tendance à se réduire?
Alors ça, je ne sais pas, parce que ce chiffre de 20 kilos, aujourd'hui d'ailleurs même, je crois que l'ADEME dit 29 kilos, je pense qu'il est en réalité sous-estimé. Alors, je ne sais pas exactement comment sont faits les calculs, mais il y a une semaine...
Pourquoi donc vous pensez que c'est sous-estimé?
Parce que finalement, quand vous regardez ce que ça représente 20 kilos par an, ça représente autour de 55 grammes, ce qui n'est pas tant que ça finalement. Donc et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu il y a une semaine donc un rapport de l'ONU qui donne des chiffres beaucoup plus importants s'agissant du gaspillage des ménages français. Ouais. Ils sont à 85 kilos.
À 85 par kilos. An. Alors. Ce sont les ménages qui gaspillent évidemment beaucoup, et puis il y a la grande distribution. Mais quand on prend toute la chaîne alimentaire en France, ça qui est intéressant, ça veut dire qu'il y a chaque année près de 20% de la nourriture produite qui finit à la poubelle. Quand je dis toute la chaîne alimentaire, ça veut dire qu'à partir du moment où on produit les légumes, les fruits, la production de viande avec les élevages, jusqu'au moment où ça arrive dans les rayons de nos supermarchés, il y a une grosse perte aussi là qui s'opère, Sarah Chouraki.
Oui, tout à fait. En fait, du coup, nous, en fait, par exemple, on essaie vraiment de traiter le problème chez le consommateur, qui, comme vous l'avez dit, en fait, est un des plus gros contributeurs de gaspillage et sur lequel il faut donner des bonnes pratiques.
Plus que la grande distribution.
Plus que la grande distribution, tout à fait.
Nous, c'est un tiers. Particuliers, citoyens, on gaspille plus.
Oui, exactement. Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte parce que, en fait, tout le monde essaie de faire au mieux. Mais en tout cas, ça représente 33% dans les ménages. Donc, c'est la première chose, en fait, qu'il faut essayer vraiment d'attaquer, parce qu'on a tous, en fait, du coup, chacun, la possibilité de faire quelque chose.
Oui. Et donc, à quoi c'est dû, Aline Gubry, ce grand gaspillage des ménages, gaspillage du quotidien?
Oui, tout à fait. Alors, c'est dû à plusieurs choses. D'abord, ça peut être une mauvaise conservation des fruits et légumes. Par exemple, certains fruits et légumes ne sont pas conservés ensemble. Ça peut être dû aussi à des oublis, entre guillemets, des mauvaises habitudes qui sont très faciles à corriger au quotidien. Et il existe des règles d'or très simples. Effectivement, vous faites bien de rappeler que ce gaspillage alimentaire ne se passe pas seulement chez nous. Il se passe aussi bien en amont dans la chaîne de production. Et pour moi, le gaspillage alimentaire, c'est aussi réfléchir aux ressources qui sont nécessaires à la production de nos différents aliments.
Oui.
Par exemple, pour du poisson, on peut penser que le poisson d'élevage est une solution au poisson à la surpêche dans les océans. En réalité, non, puisque 20% des poissons pêchés servent à nourrir les poissons d'élevage. Donc là, on a une forme aussi de gaspillage qu'on peut pallier au moins en partie en choisissant certains types de poissons que d'autres, certains types de viande que d'autres, etc.
Oui, oui. C'est grave, Éric Birloès, de gaspiller au-delà du fait que c'est un peu révoltant parce que ça ne profite pas à des ménages qui en auraient besoin. C'est grave?
Oui, en fait, il y a beaucoup d'enjeux. On évoque à l'instant les enjeux environnementaux, c'est-à-dire quand on considère ce qui est la réalité, que le tiers de la production alimentaire mondiale est perdue ou gaspillée, ça veut dire qu'un tiers des aliments...
Le tiers de la production mondiale.
Voilà, ça c'est vraiment le chiffre au niveau mondial. Oui, oui. Et donc, ça veut dire que, eh bien, on a utilisé des terres, on a parfois, évidemment, souvent, mis des engrais ou des pesticides, parfois pollué des sols, prélevé des ressources, les terres, l'énergie, l'eau, etc. Ben, pour rien, finalement. Donc, il y a cet énorme enjeu environnemental, en plus, bien sûr, de la dimension éthique et économique.
Alors, on parlera dans quelques secondes de Too Good To Go avec vous, Sarah Chouk Oraki, qui est une application assez révolutionnaire et qui permet de mettre en relation les commerçants, les distributeurs, les restaurants aussi, je crois, qui jettent des produits alimentaires avec des consommateurs qui en ont besoin. Ils bénéficient d'un prix avantageux pour les obtenir. Vous nous expliquerez tout dans quelques secondes. On sera également avec un grand chef qui va nous apprendre à cuisiner avec les restes. Vous savez, parfois, il nous reste des restes dans le frigo. On ne sait pas quoi en faire. On les jette. Eh bien non, on peut aussi produire un bon plat pour le dîner ou pour le déjeuner. On verra ça avec lui. 19h28, à tout de suite. 19h31, on continue de parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est un fléau très très important et pour lequel une proposition de loi vient d'être adoptée. On va d'ailleurs en détailler le contenu. Alors, tout à l'heure, ma langue est fourchée, effectivement. Chaque année, ce ne sont pas 10 tonnes, vous l'aurez compris, mais 10 millions de tonnes de nourriture qui finissent en France à la poubelle. J'ai bien dit 10 millions de tonnes de nourriture. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. On est toujours avec Sarah Chouk Oraki, directrice générale de Too Good To Go. On va peut-être dire un mot, je le disais, de cette application qui permet, grâce à la géolocalisation, de mettre en relation des commerçants de proximité qui veulent se débarrasser d'invendus ou de produits qui arrivent à échéance et qui seront dans quelques jours non propres à la consommation, avec eh bien des Français qui veulent acquérir ces paniers. Donc ce sont des paniers, je crois, que vous proposez à 4 euros au lieu de 12 euros. Et vous, l'application, vous vous rémunérez en prélevant 1 euro sur les 4 euros donc versés aux commerçants. J'ai vu que ça cartonne, hein. 16 000 commerçants partenaires jusqu'à présent. Alors vous dites souvent que ça paraît beaucoup, mais ça ne représente que 10% des commerçants à l'échelle nationale. Pour 8 millions d'utilisateurs, il y a 8 millions de Français qui utilisent votre application.
Oui, tout à fait. Du coup, l'application a vraiment été créée en fait, pour que chacun puisse agir contre le gaspillage alimentaire. Et du coup, ça se veut extrêmement simple. Du coup, à la fois pour le commerçant, parce qu'en fait, on lui dit c'est aussi simple de mettre des produits sur l'application que de jeter à la poubelle. Et en plus de ça, vous allez créer de la valeur sur quelque chose qu'il n'en avait pas. Donc en fait, il n'a aucune raison de ne pas vouloir le faire. Et c'est un peu le principe.
J'ai une question à vous poser, ne vous formalisez pas, mais est-ce que ça touche tous les publics, y compris ceux qui en ont vraiment besoin, ou ça reste un truc un peu de bobo et d'urbain ?
Non, pas du tout. Justement, en fait, déjà, c'est pas du tout que parisien, parce que parfois on peut nous poser la question, et en fait, il n'y a que 25% des commerces ou des utilisateurs qui sont à Paris. Et en fait, on a vraiment comme volonté, d'ailleurs, d'aller vraiment sur tout le territoire. On a là, encore plus en 2021, la volonté de
et
vraiment...
Et 15 pays européens, 24 millions d'utilisateurs en Europe, et j'ai vu que vous arriviez là aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui, tout à fait.
Sacrée révolution quand même.
En fait, c'est juste qu'on répond à un besoin où il n'y avait rien avant. Et en fait, on vient en complémentarité des associations. Oui. Donc ça, c'est super important. Et en fait, les associations ne pouvaient pas passer tous les jours chez les commerçants ou ne pouvaient pas prendre tous les produits. Et donc,
le premier critère pour lequel les gens utilisent votre application ? C'est par éthique ou c'est pour des raisons de pouvoir d'achat ?
On a vraiment les deux, mais il y a quand même une bonne partie où c'est du pouvoir d'achat. Et on le voit notamment avec une population à la fois jeune ou de retraités. Donc des petits budgets qui vont nous envoyer des messages pour nous remercier en fait d'avoir du coup accès à la nourriture auquel ils n'auraient pas pu avoir accès. Ouais. C'est vraiment très tangible.
Éric Birloez, super initiative qui fonctionne et qui profite à tout le monde a priori. Alors ça va peut-être pas révolutionner le fléau du gaspillage alimentaire, mais en tout cas c'est un bon donnant-donnant.
Bien sûr que ça y contribue et on vient de le dire, ça répond à des motivations qui sont variées avec les impacts économiques de la crise Covid-19. On peut s'attendre à ce que de plus en plus de personnes vont essayer de limiter le gaspillage et utiliser des applications de ce type. Donc ça, c'est tout à fait important. Je pense qu'on pourrait... Finalement, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que donc il y a évidemment ces réponses, on pourrait dire techniques ou technologiques au gaspillage alimentaire, mais je crois que si on veut vraiment faire changer les choses, il faut en profondeur agir, je dirais, de manière culturelle, finalement.
C'est-à-dire ?
Pourquoi gaspille-t-on ? Je pense qu'on gaspille parce qu'on a considéré que la nourriture était gaspillable, qu'elle n'avait pas de valeur. Et c'est vrai que depuis le début
pourtant,
des 30
on a conscience qu'elle a une valeur, parce que quand on va au supermarché ou sur son on dépense et ça coûte.
Oui, on dépense et ça coûte, mais malgré tout, il y a un déclin des valeurs. D'abord de la valeur vitale, on a un peu oublié que l'alimentation était vitale. Au début du confinement, certains s'en sont rappelés quand ils ont dévalisé les rayons. la valeur culturelle de l'alimentation, je ne parle même pas de la valeur symbolique et sacrée, mais aussi la valeur humaine, on ne sait plus qui a produit l'aliment, et même pour finir sur la valeur économique, en 1960, plus de 35% du budget d'un ménage était dédié à l'alimentation. Oui. Évidemment, c'est une moyenne. Oui. Aujourd'hui, on est à moins de 20%. Il y a des gens pour qui c'est très cher de manger. Évidemment, c'est beaucoup plus que 18 ou 19%. Mais quand on regarde avec un peu de tout petit peu de profondeur historique, eh bien, on se rend compte que la valeur monétaire de l'alimentation n'a cessé de diminuer, même si pour certains, c'est toujours trop cher.
Alors, je le disais, il y a beaucoup de lois qui ont été adoptées pour faire changer les choses. Puis il y a cette proposition de loi qui est portée par le député Garot qui va aussi dans le bon sens. On va rappeler quelques mesures. L'interdiction, par exemple, de rendre impropre à la consommation des dorants et encore consommables. Alors, ça paraît une évidence, mais rappelons-le, il y avait ces images absolument choquantes où ils mettaient dans les arrière-cours de la grande distribution et des supermarchés, ils mettaient de la javel pour éviter que les gens viennent chercher dans les poubelles. Comment c'est possible, ça ?
Oui, c'était alors justifié par le fait, un peu bizarre d'ailleurs, comme justification, de dire « Mais vous comprenez, je suis responsable en tant que commerçant, que distributeur, et donc si quelqu'un tombe malade et se retourne contre moi, je vais avoir un procès sur le dos. » On n'imagine pas, évidemment, que quelqu'un faisant les poubelles aille intenter un procès parce qu'il aurait été malade.
Ça, c'est fini.
Et puis, bien sûr, depuis la loi de Guillaume Garot, il y a déjà quelques années.
Il y a eu l'obligation aussi de proposer une convention de don à une association habilitée, c'est-à-dire qu'on arrête de jeter quand les produits sont encore propres à la consommation. Il faut les donner à des associations pour que ça profite, évidemment, à des ménages qui en ont besoin. Ça, c'est bien.
Oui, évidemment, c'est bien. C'est bien à condition de ne pas considérer qu'on va résoudre le problème de la pauvreté par le gaspillage ou qu'on va résoudre le problème du gaspillage par la pauvreté.
C'est vraiment deux phénomènes différents. Alors, ça, c'est anecdotique, mais quand même, ça existe. Donc, je le mentionne, de proposer un doggy bag dans les restaurants pour repartir avec son plat si on ne l'a pas terminé. C'est symbolique, mais vous le disiez, ça participe.
Là, il y a un gros frein culturel, à mon avis.
Oui, mais ça. Je l'ai déjà fait, moi, vous voyez.
Oui, on en parle juste avant, justement, en effet.
Ça participe quand même à une espèce de changement de mentalité.
Oui,
ça
bien
va
sûr.
Dans ce sens-là. Alors l'idée de tout ça, c'est de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2025 pour la distribution et la restauration collective. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la restauration collective jette énormément. Aline Gubry, vous êtes consultante sur la question. Est-ce que ça va dans le bon sens et est-ce que cet objectif, on va pouvoir y parvenir ?
Écoutez, on va rester optimiste, je vais dire oui. En tout cas, ce qui est important, c'est de bien comprendre que chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire que nous, consommateurs, avons une marge de manœuvre, je pense d'ailleurs plus importante que ce qu'on pense, mais aussi les entreprises, mais aussi le rôle du politique, etc. On va pas ni culpabiliser le consommateur en disant que c'est absolument qu'à lui d'agir, et inversement, on va pas non plus se dire, nous, consommateurs, on ne peut rien faire, il faut attendre que la sphère politique ou les entreprises agissent. Et d'ailleurs, la marge de manœuvre que nous, on a à notre, entre guillemets, simple échelle est beaucoup plus grande que ce qu'on pense.
Oui.
On parlait tout à l'heure de Too Good To Go pour avoir un impact sur le gaspillage qui se passe chez nos commerçants, chez la grande distribution, etc. On a aussi des petites astuces pour avoir un impact positif sur ce gaspillage-là. Par exemple, alors des petites règles d'or que je donne dans mon livre, le guide de l'alimentation durable. Par exemple, si vous achetez une boîte d'œufs ou de yaourt que vous savez que vous allez consommer dans les jours qui suivent, eh bien inutile de prendre la date la plus longue au fond de l'étagère, autant prendre les dates les plus courtes.
C'est vrai que c'est un réflexe, on a tous ça. Vous avez
et
raison.
Voilà.
Bon.
Et donc, si tout le monde boude les dates courtes, elles finiront à la poubelle.
Alors, je vous interromps parce qu'on va en parler tout à l'heure des dates limites de consommation. Il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a un vrai sujet et justement, la proposition de là milite pour que les choses changent. On vous expliquera tout ça. Je voudrais qu'on donne la parole à Jean-Loup Lemaire qui est avec nous par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Vous êtes fondateur et coordinateur national de la Tente des Glaneurs. Vous étiez cuisinier gastronomique et vous avez décidé de vous lancer aussi dans des actions solidaires. Alors, glaner, ça veut dire faire les marchés, récupérer les invendus et puis aller les distribuer à des gens qui en ont besoin.
En fait, moi, j'ai créé un concept. C'est-à-dire que j'ai compris que sur les marchés de France non sédentaires, on avait un vivier de choses qu'on pouvait récupérer. On récupérait avant auprès des grandes surfaces, des moyennes surfaces, des grandes surfaces, et qu'on n'avait pas pensé à récupérer sur les marchés non sédentaires, c'est-à-dire les marchés de France, où chaque semaine, le mardi, le mercredi, le jeudi, on trouve devant un étal.
Et alors Jean-Loup, vous récupérez combien à peu près de marchandises par week-end ?
Ah non, mais moi je vais vous parler d'une chose, c'est que c'est important, c'est que je peux nourrir des personnes avec un produit gratuit qu'on aurait pensé jeter avant, et je nourris 3/5 d'étudiants, 1/5 de retraités et 1/5 d'actifs.
Ah oui. Ah oui, donc ça fait pas mal de monde. Ça fait pas mal
donc
de monde.
C'est négligeable. Effectivement, j'ai créé ce souci et j'ai identifié cette problématique.
Bien. Merci Jean-Loup Lemaire. On va être obligé de s'arrêter parce que la ligne n'est pas optimale, mais on a bien entendu votre initiative et on vous remercie d'avoir témoigné. Formidable, Éric Birloez, vous êtes ingénieur agronome. Oui. Ces initiatives, parce que ça paraît pas grand-chose, mais quand même, au bout du bout, ça change la donne.
Oui, moi je crois qu'il y a évidemment, tout le monde doit prendre, effectivement, doit contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire, les consommateurs, bien évidemment, et puis les pouvoirs publics qui peuvent, on le voit avec ces lois, participer à faire bouger les choses. Et là, on parlait du glanage, et ça me rappelle que le glanage, ça existe depuis l'Antiquité. Hein. Oui. C'est un droit de glanage. On peut aller récupérer dans le champ les grains de blé que les moissonneurs ont laissé tomber, mais c'est très cadré malgré
oui,
tout.
Oui, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. On a le droit, après les récoltes, d'aller dans les champs des agriculteurs,
voilà,
exactement comme vous dites.
Mais pas de nuit.
Faut mieux demander l'avis à l'agriculteur avant
bien
de le
sûr.
Prévenir, hein, pour éviter tout problème. Mais on a le droit de le faire. 19h41, on marque une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants. On va vous apprendre à bien cuisiner avec le chef François Pastaud. Il est en ligne avec nous, à tout de suite. Et on poursuit dans le débat du Club des Idées à parler de la lutte importante contre le gaspillage alimentaire. Chaque année, je le disais tout à l'heure, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture qui finissent en France à la poubelle. Alors on tente ce soir de vous apporter aussi des solutions très très concrètes pour changer la donne. Je voudrais simplement qu'on parle avec vous, Sarah Chouraki, avant de donner la parole au chef François Pastaud qui est avec nous par téléphone, qu'on parle de cette histoire des dates limites de consommation. Vous êtes la directrice générale de l'application Too Good To Go. Alors, il existe deux dates de péremption hein, qui ne signifient pas tout à fait la même chose. Il y a les dates de durabilité minimale et puis il y a aussi les dates de consommation à proprement parler auxquelles il faut faire attention. C'est notamment pour les produits frais, la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs, où là, il ne faut pas dépasser. Mais pour les autres, on peut dépasser largement. Donc, il y a aussi une responsabilité des fabricants et des industriels.
Oui, tout à fait. En fait, nous, c'est un débat qui est assez important pour nous, ces dates, parce qu'elles sont responsables, en fait, en Europe, de 10% du gaspillage alimentaire.
10%.
10%. Du coup, la mécompréhension entre les deux dates que vous venez d'expliquer. Et en fait, du coup, nous, l'objectif, c'est vraiment d'essayer justement de changer typiquement sur les packagings pour qu'en fait, les Français comprennent vraiment ce que ça veut dire la date de durabilité minimale,
oui.
Qui en fait ne présente aucun...
C'est le fameux « à consommer de préférence avant ».
Exactement.
Qu'on voit tous et à chaque fois, on ne sait pas trop si on peut aller au-delà ou pas.
Exactement.
La vérité, c'est qu'on peut aller au-delà.
On peut aller au-delà parce qu'en fait, ce n'est pas un problème du coup pour la santé. Ça peut présenter un problème de qualité. Donc, par exemple, que ce soit un peu moins doux,
boutu.
Un peu moins exactement, ou un peu moins croustillant, etc.
Oui,
mais
oui.
Ça ne présente aucun problème pour la santé. Et du coup, nous, c'est ce qu'on veut vraiment expliquer. Et du coup, en rajoutant des pictogrammes qui parlent à tout le monde et qui disent « utilisez vos sens, regardez, sentez, goûtez ». Parce que quand on n'avait pas ces dates-là, il fallait bien qu'on utilise une certaine technique pour choisir.
Mais Éric Birloez, vous êtes ingénieur agronome, sociologue de l'alimentation. Je repose la question, il y a une responsabilité immense là, des industriels qui... d'une certaine manière, avance ces dates limites de consommation, alors qu'on pourrait très bien consommer ces produits parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois après la date qui est inscrite. Pourquoi font-elles ça, ces marques ?
Oui, alors effectivement...
C'est pour nous faire consommer plus ?
Alors, il y a un peu de ça. Ça, on peut pas dire le contraire. Il y a un flou qui est un peu entretenu. Hein, on ne savait pas très bien ce que c'était. DLUO, DDM, on ne sait pas plus, etc. Effectivement, il faut juste que les gens réapprennent qu'il y a des produits qui sont... pour lesquels la date limite de consommation, il ne faut vraiment pas s'amuser. Hein. Imaginez un steak haché, enfin, un produit frais qui est un nid potentiel de bactéries, de contamination bactérienne.
Ça, faut respecter.
Et à côté de ça, on a tout un tas de produits, d'épiceries sèches ou autres.
Alors,
c'est le goût, comme vous disiez.
Je peux donner quelques exemples.
Bon,
le miel, par exemple. Bah, ça peut se conserver
jamais,
à vie.
Exactement.
Voilà.
Ah bah
le
oui,
chocolat.
Il y a beaucoup de sucre.
Le chocolat, ça peut être consommé jusqu'à 2 ans après la date qui est inscrite sur le paquet. Les produits secs, comme les pâtes.
Voilà.
Là aussi, plusieurs mois
après
la date. Le lait pasteurisé peut être bu jusqu'à 2 mois après sa date de péremption. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ça.
Oui, alors c'est plutôt le lait UHT, en fait,
oui.
J'imagine. Oui.
Et les fromages, c'est le cas aussi, jusqu'à 2 semaines pour certains après la date. Alors, on est en ligne avec François Pastaud, comme promis, ancien chef cuisinier de l'Épi du Pain. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez monté Éthique et Gastronomie. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors oui, c'est une société de conseil. En fait, j'accompagne des restaurateurs ou des collectivités pour, si vous voulez, pour mieux travailler d'une façon éco-responsable, anti-gaspi, au niveau du sourcing également, pour vraiment avoir une alimentation au plus près de notre terre et dans le respect de nos vignerons, de nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs, qui quotidiennement nous offrent tous ces produits de qualité et contribuent au rayonnement gastronomique de la France.
Comment peut-on lutter tout à chacun dans son quotidien contre ce gaspillage alimentaire selon vous ?
Alors avant tout, c'est une question de bon sens. C'est en quelque sorte, si vous voulez, un peu cuisiner malin, sans trouer votre budget, en faisant une cuisine plaisir, en valorisant toutes les parties d'un fruit, d'un légume, d'une viande, d'un poisson.
Un exemple peut-être ? Un exemple ?
Oui, bien sûr. Je vais prendre un produit que tout le monde connaît très bien, c'est le poulet rôti, le fameux poulet rôti.
Oui.
Il reste toujours de la viande, même si vous savez très bien le désosser après la cuisson. Et avec ces petits morceaux de viande, vous pouvez vous amuser à réaliser une pastilla en mélangeant avec ces morceaux de viande avec de l'oignon confit, des aromates, puis les envelopper dans une feuille de brique. Vous mettez ça au four et ça devient croustillant et ça vous fait une entrée pour le lendemain. Mmh. Et c'est pas fini. Avec la carcasse de ce fameux poulet, vous allez réaliser également un bouillon. Alors vous pouvez faire un bouillon un petit peu exotique, façon thaï, on va dire, avec un peu de gingembre, un peu de coriandre. Et dedans, vous pourrez rajouter ce qui vous reste un petit peu dans votre frigo. Alors ça ne veut pas dire des produits périmés, loin de là, c'est des bons produits,
oui,
mais qui
oui.
vont vous permettre de réaliser une nouvelle recette.
Bon, et à l'arrivée, on jette rien. C'est-à-dire qu'on arrive à utiliser à peu près tout ce qu'on... Parce qu'on a toujours du mal de... Je crois qu'il y a une application qui s'appelle... Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui permet de faire des plats avec les restes. C'est vrai qu'on est souvent confronté à cette problématique-là. Il nous reste un peu de ci, un peu de ça. Puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça comme recette ? On n'y arrive pas. En fait, c'est possible.
En fait, c'est possible, c'est facile. En fait, il faut prendre le temps de cuisiner. Il faut prendre le temps d'avoir envie de le faire aussi, c'est ça. De se dire, avant d'aller racheter des produits, ouvrez votre frigo, regardez ce qu'il y a dedans. Et la plupart du temps, vous allez vous dire, tiens, je peux y aller que demain. Et vous allez vous amuser justement, et vous allez justement créer des recettes et vous régaler avec, en fait, simplement avec les restes de la veille, avec des parures de fruits, avec des parures de légumes, de viande. Et justement, ça va pousser votre créativité. Et honnêtement, c'est un jeu. Enfin, moi, je faisais ça tout le temps au restaurant.
Oui.
Avec mon équipe. Depuis 25 ans, j'ai fait ça. Et c'est vrai que c'est, en plus, économiquement, ça va vous permettre d'acheter des produits de très grande qualité, de pas trouver votre budget et de faire des économies.
Bon, ça y est, on est prêt pour le dîner. Alors, François Pasteau, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci en tout cas pour votre témoignage et belle suite pour cette belle initiative. Éric Birloise, est-ce que la grande distribution aujourd'hui joue le jeu de la fin du gaspillage alimentaire ?
Alors, ils y ont été
contraints,
ils le seront à mon avis de plus en plus. Hein. Mais encore une fois, dans les chiffres, ce n'était pas tellement la grande distribution qui était le plus gros gaspilleur. Hein. Et bien sûr, ils avaient leur contribution à cela, mais finalement, encore une fois, à tous les maillons de la chaîne, il y a des choses qu'il faut améliorer au niveau des consommateurs, de la production.
Ça reste compliqué encore, parce que les cantines scolaires, évidemment, il n'y a pas de deuxième vie pour les aliments et les plats qui sont souvent préparés, d'ailleurs, qui sont souvent importés. On le dit peu.
Ah oui, alors ça,
importés.
Absolument.
Je crois qu'un poulet sur deux consommé dans les cantines est importé, par exemple, et notamment du Brésil.
Juste là-dessus, moi, je vais rajouter que c'est vraiment nous quelque chose qui nous tient à cœur, justement, de travailler avec les cantines et notamment les cantines scolaires. On lance un programme éducation pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, parce qu'on en discutait justement. Et en fait, ce sont les consommateurs de demain, mais aussi les prescripteurs auprès des parents. Et en effet, dans les cantines, il y a des choses à faire qui sont déjà faites. Et on voit notamment, par exemple, du visuel avec du pain qu'on voit jeté au jour le jour. Donc, il y a définitivement quelque chose à faire. Mais en tout cas, on est sur le sujet pour aider justement à réduire ce gaspillage-là.
Bien, un dernier conseil peut-être, Éric Birloise ou Sarah Chouraki, pour tous les auditeurs et les auditrices d'Europe 1.
Ça a été dit par François Pasteau. Je pense que la lutte contre le gaspillage alimentaire ne doit pas être une contrainte, une punition, mais qu'il faut au contraire le voir comme quelque chose de positif qui nous fait reprendre conscience de la valeur de l'aliment et de ceux qui l'ont produit et qu'on a parfois tendance à oublier.
Même question, Aline Gubry, vous êtes consultante en développement durable.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est ne pas penser que la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est des recettes type cuisiner des épluchures, etc. Non, non, ça peut être beaucoup plus simple et attractif. Ça peut être tout simplement ne pas stocker ses pommes de terre avec ses oignons parce que ça va accélérer la maturation, etc. Donc, c'est des astuces très simples et qui sont vraiment accessibles à tous. Bien. Et très économique.
Et ça permet de faire des économies au bout du bout. Merci à tous les trois pour ces conseils, d'avoir balayé ces quelques recettes, évidemment, pour éviter le grand gaspillage alimentaire qui concerne tout de même 10 millions de tonnes. Hein, c'est bien ça, 10 millions de tonnes de nourriture chaque année qui sont jetées à la poubelle par an. C'est absolument colossal. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.